après avoir passé. Moi, j'ai mis mon petit signet noir au milieu, comme ça, ça va vite. Hein. Et si vous n'en avez pas, j'ai vu qu'il y en a encore ici devant. Hein. Donc avec un peu une chronologie et tous les grands thèmes. Malachie chapitre 2. Nous allons lire les 9 premiers versets. Malachie chapitre 2. Donc nous écoutons la parole de Dieu. Malachie chapitre 2, verset 1. À 9, Malachie 2, 1 à 9. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction. Je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai, parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences, et je vous jetterai au visage les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec Lévi était une alliance de vie et de paix, ce que je lui ai accordé pour qu'il me craigne. Et il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est l'envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous, vous vous êtes écartés de la voie, et vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies, et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Prions. Seigneur, nous te demandons ta direction dans ta parole, que tu nous guides par ton Esprit Saint. Amen. Toute la section de Malachie qui va de Malachie 1, verset 6, jusqu'à Malachie 2, verset 9, s'adresse presque au sacrificateur. Si vous vous rappelez au chapitre 6, au chapitre 1, pardon, et au verset 6, à la fin, au milieu du verset, Dieu dit déjà qu'il s'adresse à vous, sacrificateurs. Et puis ici, au chapitre 2, donc il dit « Maintenant, à vous, cet ordre sacrificateur. » Donc, toute cette section s'adresse aux sacrificateurs, même si dans la première partie, chapitre 1, on pourrait dire aussi que Dieu s'adressait aussi un peu au peuple. Au verset 14, par exemple, quand on lit, il dit « Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. » Et donc, c'était les gens qui choisissaient aussi et qui amenaient ces bêtes au sacrificateur. Bien sûr, le sacrificateur aurait dû les analyser auparavant. Et donc, on pourrait dire que la parole s'adressait un petit peu aux deux, mais ici, on est vraiment dans une parole qui est spécifiquement adressée au sacrificateur. Et le premier réflexe que l'on peut avoir, le réflexe naturel, c'est de dire, bon, c'est les sacrificateurs, ça m'intéresse pas. Peut-être à la limite les pasteurs, ça peut les intéresser, mais bon, qu'est-ce que j'ai à voir avec ce que Dieu dit à une classe particulière de personnes qui existait 400 ans avant Jésus-Christ. Nous sommes maintenant en 2016, et on est dans une époque différente. Et est-ce que vraiment ce qui est dit là, on peut le prendre aussi pour nous aujourd'hui? Il faut noter peut-être deux choses un peu. C'est que ce sont ni les personnes qui sont adressées, ni l'époque qui doivent décider de notre écoute de la parole de Dieu, mais le fait que Dieu parle, tout simplement. Et ici, Dieu parle. Et quand Dieu parle, Dieu se révèle. Et donc, peu importe l'endroit de la parole où Dieu parle, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, quand Dieu parle, il dit quelque chose de lui. Et on le voit très nettement tout au long du livre de Malachie. Quand Dieu a parlé dans le jardin d'Éden, il s'est révélé à Adam et Ève. Et puis quand il parle aux églises de l'Apocalypse aussi, il se révèle aussi à ces églises. Il dit qui il est. Donc c'est important pour nous parce que Dieu se révèle. Et si nous voulons le connaître et apprendre à mieux le servir, il est important que nous l'écoutions partout où il parle. Parce que partout où il parle, il se révèle. Et puis deuxièmement, c'est vrai que dans l'église, aujourd'hui, dans l'église en tout cas, il n'y a pas de sacrificateur comme à l'époque de Malachie. On n'offre plus de sacrifices d'animaux sur un autel. La Bible dit que Christ est le grand souverain sacrificateur. Hébreux chapitre 4, verset 14. Et qu'il possède un sacerdoce qui n'est plus transmissible. Il n'y a plus maintenant de sacrificateur qui vient pour offrir pour le peuple des sacrifices. Et son sacrifice, son sacerdoce, il n'est pas donc transmissible parce que lui, il demeure éternellement. Les souverains sacrificateurs de l'Ancienne Alliance, eh bien, mouraient. Il fallait à chaque fois les remplacer. Mais lui, il demeure éternellement. Et la Bible dit même que c'est pour cela qu'il peut nous sauver parfaitement. Donc, vous pouvez lire ça dans Hébreux chapitre 7, verset 24, 25. Il est donc le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais la Bible dit aussi que tous les chrétiens sans exception constituent un royaume de sacrificateurs. 1 Pierre chapitre 2, verset 9, vous vous rappelez, mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Et puis, dans Apocalypse, on peut lire que Dieu a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Et nous pouvons lire dans Hébreux chapitre 13, versets 15 et 16, que par lui, par Christ, nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Donc, nous sommes des sacrificateurs. Et nous n'offrons pas des bêtes, nous n'offrons pas des animaux, mais nous offrons des sacrifices. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 2, verset 4, il dit que nous offrons des sacrifices, des victimes spirituelles. Et ici, dans Hébreux, il est dit que nous offrons des sacrifices de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et juste après, il dit, et n'oubliez pas, donc, deux choses, la bienfaisance et la libéralité, c'est à de tels sacrifices, dit-il même, que Dieu prend plaisir. Donc, nous sommes des sacrificateurs et tout ce que nous faisons dans notre vie à l'égard dans notre relation avec Dieu constitue aussi le sacrifice. L'apôtre Paul disait, je vous exhorte donc par les compassions, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Nous n'offrons pas les bêtes, mais nous devons nous offrir nous-mêmes aussi à Dieu. Et c'est un sacrifice. Et en ce sens, nous sommes aussi des sacrificateurs. Et ces sacrifices, dit-il, dans Romains 12, c'est un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qualificatif d'agréable à Dieu parcourt le livre de Malachie, je ne sais pas si vous avez fait attention à cela, mais aussi, partout où il est question de sacrifice, même sous la Nouvelle Alliance, il est question d'être agréable à Dieu quand on offre le sacrifice. Donc il est important pour nous de savoir ce que Dieu dit ici, parce que le Dieu auquel on offre les sacrifices, aujourd'hui, même si ce sont des sacrifices spirituels, c'est le même Dieu auquel les sacrificateurs de l'époque de Malachie offraient des sacrifices. Il n'a pas changé d'un iota, ni dans sa sainteté, ni dans ses exigences. Et ce qu'il exigeait ici, comme caractère, c'est ce qu'il exige encore aujourd'hui, comme un caractère. Donc, ces paroles qui sont là sont pour nous, bien sûr, même si elles sont adressées de manière plus spécifique à ceux qui occupent parfois une position particulière dans l'œuvre de Dieu, mais elle est pour nous tous. Et donc, je voudrais souligner à travers ce texte plusieurs choses. D'abord, j'ai intitulé ce message l'ordre de Dieu au ministre du culte. Parce que le texte commence en disant, à vous cet ordre. Et puis, verset 4, il est dit, vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre. Donc, c'est un ordre que Dieu adresse ici. Et donc, nous voulons voir ce matin de quoi il s'agit. La première chose, premier ordre, le premier devoir, on pourrait dire, que Dieu adresse ici au sacrificateur, c'est le devoir d'une immédiate et authentique repentance. Quand on lit ce texte, je crois qu'on est en face d'un appel à la repentance. Si vous n'écoutez pas, dit-il, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Donc, il annonce une menace et il dit, si vous ne faites pas cela, voilà ce qui va arriver. Et quand on fait ainsi, c'est une manière de dire, attention, changez de conduite. Et on le voit dans Malachie, à un moment donné, il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Hein. Et donc Dieu, par le conditionnel qui est utilisé ici, eh bien appelle le peuple à la repentance. Le but de l'envoi du prophète Malachie n'est pas d'exterminer les sacrificateurs et le peuple, mais c'est de les exciter à la repentance. Ézéchiel chapitre 33 dit, Dieu dit, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» Et donc Dieu, on a dit ce matin, exprime sa miséricorde, sa grâce, en manifestant sa colère dans ce passage et ses menaces. C'est un appel qu'il fait au peuple à se repentir. Et donc Dieu établit premièrement, dans cet appel à repentance, il établit premièrement l'échec des sacrificateurs. Il dit ici, verset 2, « Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, » puis à la fin du verset 2, il dit, « Parce que vous n'avez pas à cœur, hein, » il parle de son honneur et de sa gloire, « vous ne l'avez pas à cœur. » Donc il met en évidence ici l'échec du peuple, et l'échec du peuple dans l'écoute de Dieu. L'échec plutôt des sacrificateurs, on va dire premièrement, dans l'écoute de Dieu. Entendre Dieu au travers de sa parole et agir conformément à ses instructions. C'est ce que Dieu demandait aux sacrificateurs, faire agir le peuple conformément aux instructions de Dieu. Et donc la première responsabilité de ces prêtres était d'être à l'écoute de Dieu, de connaître sa loi, de savoir ce qu'il exige pour pouvoir transmettre au peuple. Dans Ésaïe 50, par exemple, on trouve l'exemple du parfait serviteur qui dit « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole ceux qui sont abattus. » Mais il dit « Mais il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. » Et donc la première disposition est celle qui consiste à écouter Dieu. Deuxièmement, ici, il montre que leur deuxième échec, c'est qu'ils ont failli dans l'honneur qu'ils doivent porter à son nom. Plus précisément, dans le fardeau qui doit peser sur leur cœur pour l'honneur de Dieu. Il dit, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, alors j'enverrai parmi vous la malédiction. Je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Par deux fois, Dieu insiste sur le fait d'avoir à cœur, d'avoir ce fardeau pour sa gloire, pour son honneur, pour son nom. Il dit ainsi que la gloire de Dieu doit occuper le cœur du sacrificateur. Et l'exercice vraiment méprisant qui consistait à offrir extérieurement des bêtes qui étaient impropres au sacrifice, était vraiment motivé par un cœur qui n'avait pas le souci de la gloire de Dieu. Lorsque les prêtres acceptaient ces bêtes qu'on leur amenait et qu'ils savaient non conformes, ils exprimaient qu'ils n'avaient pas eux-mêmes dans leur cœur le souci de glorifier Dieu. et on peut officier au plus haut niveau entre Dieu et le peuple, et cependant n'avoir aucun fardeau sur le cœur pour l'honneur de Dieu. Et c'est dans le cœur que Dieu veut lire la motivation. D'accord? Il veut lire la motivation des mains qui offrent les sacrifices dans le cœur. Il veut lire la motivation de la bouche qui prêche la parole de Dieu dans le cœur. Celui qui chante le cantique, c'est dans le cœur qu'il va chercher la motivation. Les doigts agiles qui se baladent sur un instrument de musique, eh bien, c'est dans le cœur aussi qu'il va chercher la véritable motivation. La motivation des pieds qui sillonnent les rues pour distribuer des traités, c'est dans le cœur qu'il va le chercher. Et toutes ces choses, bien sûr, sont bonnes et sont importantes, mais elles peuvent cohabiter avec un cœur qui n'a aucun souci pour la gloire de Dieu. Et c'est ce que Dieu montre ici à ses prophètes, à ses sacrificateurs. Avant de confier ses brebis à Pierre, vous vous souvenez, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, lui pose trois fois une question. Il lui dit, « Pierre, m'aimes-tu ?» Il ne dit pas, « Pierre, est-ce que tu aimes prêcher ?»« Pierre, est-ce que tu aimes diriger les autres ?»« Pierre, est-ce que tu aimes chanter ?» Ou est-ce que tu aimes évangéliser? Parfois, c'est comme ça que nous faisons. Qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime bien évangéliser. Ok, bon, on va te mettre dans l'équipe d'évangélisation. Qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime bien chanter. Eh ben, tu vas participer à la chorale. Mais Dieu dit, Pierre, m'aimes-tu? Il veut savoir, est-ce que ton cœur est attaché à moi? Est-ce que tu m'aimes, moi? Parce que si tu m'aimes, moi, tu aimeras mes brebis. Tu aimeras mes enfants. Et tu aimeras les paître comme il faut les paître. Donc Dieu manifeste, établit ainsi l'échec des sacrificateurs. Deuxièmement, dans cet appel à repentance, on peut dire, Dieu manifeste sa sainte colère. Quand vous lisez ce texte, on a l'impression que la colère de Dieu, elle est palpable. On peut la toucher des droits par les mots qu'il utilise. Dans la version du semeur, je vous lis les versets 2 et 3, il dit « Alors j'enverrai la malédiction contre vous, et vos bénédictions, j'en ferai des malédictions. Oui, j'en fais des malédictions, car aucun de vous ne prend à cœur de m'honorer. Je vais détruire votre postérité, et vous jeter à la figure les excréments des bêtes que vous offrez en sacrifice lors de vos fêtes. » Et puis, l'on vous en portera au dehors avec eux. Ce sont des paroles qui sont dures. On pourrait presque dire qu'il y a une certaine violence dans le propos. Et on comprend que Dieu est en colère contre ces sacrificateurs qui n'honorent pas son nom. Et dans cet appel, même s'il appelle à la repentance, dans sa sainteté, il manifeste que son honneur est bafoué dans cette attitude. Et il exprime cette menace dans des termes vraiment vigoureux. Et il va l'accomplir s'ils ne l'écoutent pas et s'ils ne prennent pas à cœur de donner gloire à son nom. Il dit, j'enverrai la malédiction. D'autres textes disent, je vais lancer la malédiction. Ce n'est pas juste que je vais la poser comme ça contre vous. Il va la lancer comme un projectile, comme une balle pour atteindre certainement sa cible. Il dit, je maudirai vos bénédictions. Savez, dans la Bible, on aime les passages où on lit que Dieu change la malédiction en bénédiction. C'est arrivé à l'époque de Balaam. Vous vous rappelez que Balaam il avait été appelé pour pouvoir maudire le peuple de Dieu. Et bien, lorsque même Néhémie, dans le Deutéronome, on trouve ça, lorsqu'il est question, quand on fait référence à ce passage, il est dit que Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Et c'est un sens qui nous va très bien, que l'on aime très bien. Mais ici, dans le livre de Malachie, on apprend qu'il est capable aussi de faire l'inverse. Il est capable de changer la bénédiction en malédiction. Et ça, c'est terrible. Stopper une malédiction pour la transformer, c'est quelque chose quelque chose qui a été donné comme bénédiction, et puis la prendre et la transformer pour qu'elle soit une malédiction. Ça montre à quel point Dieu est en colère une sainte colère lorsque l'on s'approche de lui avec un tel cœur, avec un tel mépris pour son nom. Et ce Dieu-là, c'est le même qui existe aujourd'hui. Il est tout autant en colère lorsque aujourd'hui même, nous nous approchons et que nous chantons des cantiques et que nous nous approchons de lui avec une attitude qui méprise son nom. Et il est capable encore aujourd'hui de changer nos bénédictions en malédictions. Alors, certainement, ces sacrificateurs, ils avaient un salaire qu'ils recevaient, peut-être, je ne sais pas comment Dieu a fait ces choses, hein. Peut-être qu'ils en avaient moins. Il parle de leur postérité, hein. Il parle de la destruction de la semence, ça peut être la semence agricole, mais aussi la postérité, hein, les enfants qu'ils peuvent avoir. Et Dieu peut apporter la malédiction dans quelque chose comme des enfants qui sont normalement donnés comme une bénédiction pour nous. Et peut faire que ça devienne une malédiction parce que notre cœur s'attache tellement à eux et se détourne tellement de Dieu qu'il peut, dans sa grâce pour nous ramener, les frapper ou faire quelque chose. Et ça va devenir pour nous comme un sujet de malédiction. Ces enfants dans lesquels nous avions mis toute notre espérance, cette postérité dans laquelle on avait mis toute notre espérance, et puis voilà, il enlève un peut-être, on ne sait pas ce qu'il peut faire. Et voilà, et pour nous c'était, on dit, mais j'aurais mieux fait de ne pas en avoir. J'ai tellement prié Dieu pour qu'il me le donne, et puis maintenant il l'a pris. Chaque fois qu'il le fait, ça n'est pas forcément qu'il change la bénédiction en malédiction. Mais il peut le faire. Il peut le faire. Et il dit cela ici à ses sacrificateurs. Et ça, c'est terrible. Quand Dieu change ce qu'il a lui-même donné comme bénédiction pour que ça soit pour nous un objet de malédiction. Et puis il dit, je vous lancerai au visage les excréments des victimes que vous sacrifiez dans vos fêtes. Il dit, ce n'est pas mes fêtes, ce sont vos fêtes. Ça me rappelle le message sur la scène où l'apôtre Paul dit, lorsque vous vous assemblez pour le repas du Seigneur, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. Et bien, Dieu dit, ce que vous faites, ce ne sont pas mes fêtes, ce sont vos sacrifices que vous sacrifiez. Mais moi, je n'y suis pas, je n'y prends pas plaisir. Chapitre 1, verset 12, je crois qu'il avait dit cela. Hein. Je ne prends pas, c'est le verset 12, non, peut-être verset, au chapitre 1, au verset 10, hein, où il dit qu'il ne prend pas plaisir. Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Et les offrandes de vos mains ne me sont point agréables. Oui. Et donc il dit, je répandrai les excréments des victimes. Vous savez, la Bible nous dit dans le Lévitique, par exemple, 16, verset 27, que bien les sacrificateurs emportaient, hein, dans les sacrifices qui étaient faits, eh bien, on emportait hors du camp, le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation. Et on brûlera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. Donc c'était des choses qui étaient pour être jetées. Et imaginez un peu le choc des sacrificateurs lorsqu'ils entendent ça. Peut-être que nous, ça ne nous choque pas beaucoup, mais c'était des gens qui étaient dans un rituel de purification avant d'officier. Et entendre de la part de Dieu qu'ils vont recevoir les excréments de leurs victimes au visage, ça devait être choquant. Et c'est Dieu qui le dit, c'est pas un autre homme qui le dit, c'est Dieu lui-même qui le dit. Et puis il dit, on va vous emporter avec. C'est-à-dire, vous ne valez pas mieux que les excréments des sacrifices que vous sacrifiez. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Parce que vous serez au même niveau, on vous jette en même temps. Ça montre à quel point Dieu est atteint par cette attitude méprisante de ces sacrificateurs. Et donc, Dieu appelle son peuple à la repentance. Il dit, si vous n'écoutez pas, autrement dit, ça veut dire écoutez. Il dit, si vous ne donnez pas gloire à mon nom, ça veut dire donnez gloire à mon nom. Ayez à cœur maintenant de donner gloire à mon nom pour que ces choses n'arrivent pas. Non, ils avaient déjà commencé. Hein. Dans le verset 2 dit, « J'enverrai parmi vous la malédiction, je maudirai vos bénédictions. » Et même, si vous le dites dans d'autres traductions, le « oui, je les maudirai » dit « oui, je les ai déjà maudites. Je les ai maudites. » Et si vous lisez chapitre 3, verset 9, il dit « Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. » Donc il y avait déjà, cette malédiction avait déjà commencé à ramper. Hein. Elle n'était pas à son summum, mais elle avait déjà commencé à ramper. Et si vous regardez au verset 11 du chapitre 3, il est dit « Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de la terre, la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. » Vous voyez, ça avait déjà commencé. Et peut-être qu'il pensait que c'était, voilà, à cause du climat qui était trop chaud, j'en sais rien, ou autre que, voilà, il y avait des petites vermines dans le fruit, etc. Ben Dieu dit « Non, voilà, c'est moi !» Comme dans Agé, vous vous rappelez, c'était le même peuple, 100 ans plus tôt, avec le prophète Agé, où Dieu dit, voilà, j'ai soufflé sur votre semence. Vous aviez amassé des choses dans vos greniers, j'ai fait, et j'ai tout évacué. Et puis il dit, j'ai appelé la sécheresse sur la terre. C'est moi qui l'ai fait. C'est pas le réchauffement climatique, c'est moi qui l'ai fait. Il dit, j'ai appelé, voilà ce que j'ai fait. Et il dit, changez. Et même dans sa sainte colère, Dieu est un Dieu d'amour qui appelle son peuple, qui appelle ses serviteurs à la repentance. La Bible dit que quand il châtie, ce n'est pas à perpétuité. Mais même sa miséricorde n'est jamais très loin du châtiment qu'il apporte. Donc il appelle son peuple à la repentance. Parce que ici, il est glorifié. Il appelle à avoir à cœur sa gloire. Et le premier signe qu'ils auraient à cœur sa gloire, c'est qu'il se repente. C'est le tout premier signe. Parce que la repentance glorifie Dieu. C'est un peu ce qu'on voit ici. Donnez gloire à mon nom, repentez-vous. Et Josué disait, oh, dans l'affaire avec Akan, quand il avait volé, il avait pris les manteaux et puis quelques objets, je ne me rappelle plus tous les détails, mais à un moment, il a caché ça. Et puis, il y avait une plaie à cause de ce péché dans le camp. Et Josué... On trouve que c'est Akan, et Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache pas. Et ici, il dit, voilà, tu vas rendre gloire à Dieu en confessant ton péché, en te repentant. Et la repentance glorifie Dieu. Et le premier ordre que Dieu donne ici à ses prophètes, ses sacrificateurs, c'est repentez-vous. Vous m'avez déshonoré. Je suis en colère. Ma justice exige que je vous frappe. Mais revenez. La porte est encore ouverte. Vous pouvez revenir. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Deuxième point ici. Dieu appelle, donne, second ordre que Dieu donne ici à ses sacrificateurs, c'est le devoir vraiment d'une réelle révérence. Il veut que le peuple ait un cœur qui le vénère, qui ait une véritable révérence, une véritable adoration. Les prêtres font partie de la tribu de Lévi, vous savez. Ils exercent un sacerdoce qui leur a été transmis depuis qui ? Les prêtres. Hein ? Juste les prêtres, les sacrificateurs à Aaron. Les Lévites font tout ce qui est dans le service du temple. Mais dans la tribu de Lévi, il faut être descendant d'Aaron pour être prêtre. Hein ? Voilà. Donc c'est les descendants d'Aaron qui font ce qu'on appelle le sacerdoce. Seulement, on voit ici, ils se sont écartés du vrai service sacerdotal, tel que Dieu l'avait établi. En tout cas, par leur cœur impénitent. Et Dieu va leur montrer leur dérive en établissant sous leurs yeux, je crois, un contraste entre leur disposition de cœur et celle qui animait les premiers sacrificateurs, Lévi, qu'il englobe sous le vocable Lévi. Et donc l'alliance, il parle de l'alliance de Lévi. Regardez au chapitre 2. Il dit, vous saurez donc que je vous ai donné cet ordre afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel. Donc Lévi était le troisième fils de Jacob. Ce n'était pas un personnage glorieux. Si vous vous souvenez, il a fait quand même, avec son frère Siméon, ils ont fait des choses à tel point que Jacob, lorsqu'il donne sa bénédiction en Égypte auprès de Joseph, il dit, bon, Siméon et Lévi, ils vont pas rentrer dans mon conciliabule. Hein. Il dit, ils ont fait des choses, ils ont semé la colère, etc. Mais bon, Dieu a, je pense que vous avez entendu il y a deux semaines que Dieu choisit, pourquoi il a choisi Jacob, hein? Il choisit, son choix est souverain et la mécanique de son choix nous échappe complètement. Je crois qu'il faut accepter cela. Toujours est-il qu'il a choisi la tribu de Lévi. Il a choisi donc les descendants. Et donc Lévi ici fait référence, quand il dit Lévi, ça fait référence à la tribu de Lévi. Quand il parle de, donc vous pouvez lire ça dans Nombre chapitre 3, on ne peut pas lire tous les passages qui s'y réfèrent, mais Nombre chapitre 3 verset 12 à 13, si vous prenez des notes, vous pouvez le lire à la maison sous ce choix de la tribu de Lévi. Et puis, quand il parle ici de l'alliance de Lévi, alors ça fait peut-être référence probablement allusion à un épisode dans la vie du peuple d'Israël, en Nombre chapitre 25 par exemple, où parfois on peut le rapprocher aussi à ce qui s'est passé lorsque Moïse est revenu de la montagne avec l'affaire du veau d'or, où les Lévites eh bien, ont pris position. Mais on retrouve une expression qui est utilisée ici dans Malachie, dans Nombre chapitre 25, donc regardez Nombre chapitre 25, Nombre chapitre 25. Nombre chapitre 25, ici. Et verset 10, par exemple, alors, il faut relire à partir du verset 6, je crois, pour avoir l'histoire un petit peu. Mais bon, il y a un homme du peuple d'Israël qui emmène avec lui dans sa tente une femme madianite sous les yeux de Moïse, le texte le précise. Et donc, le texte nous dit que Phiné, hein, qui est descendant, donc fils d'Éléazar, descendant d'Aaron, eh bien lui, il va, il prend sa lance et puis il les transperce. Et Dieu arrête une plaie. Et le verset 10 nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu. Et il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Donc on peut rapprocher un peu hein, ce passage de Malachie 2 à ce texte où il est question d'alliance de paix. Donc on voit ici le plaisir de Dieu par le fait que ce sacrificateur s'interpose pour arrêter le péché. Et là, Dieu dit qu'il... Il a souci du nom de Dieu. Et donc le but de cette section, je pense, c'est versets 5 et 6 et 7 un peu, c'est vraiment de relever le caractère révérencieux qui doit animer le vrai sacrificateur. Il dit, mon alliance avec lui était une alliance de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craigne. Il a eu pour moi de la crainte et il a tremblé devant mon nom. On pourrait remplacer le mot crainte par le mot révérence, par exemple, et dans la traduction du Semeur, il dit, j'ai conclu mon alliance avec lui pour lui accorder la vie et le bien-être. Je les lui ai donnés pour qu'il me révère et il a révéré, et il m'a révéré. Et il tremblait devant moi. Révérer, c'est adorer avec un profond respect pour la personne, avec une conscience de sa grandeur, de sa majesté, de la majesté de Dieu, de la sainteté de Dieu. Et donc Dieu insiste ici vraiment sur la piété, la révérence des premiers sacrificateurs. Et une véritable révérence met la piété privée avant le ministère public. Je crois que c'est ce que ce texte nous montre bien. Cela, Dieu insiste d'abord sur la piété privée, véritable piété, véritable révérence privée avant le ministère public. Vous voyez, mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craigne. Donc le but de ce don de vie et de paix, qu'on pourrait dire, hein, si on transfère ça à nous, c'est le salut, le but sous lequel Dieu fait son don, ça n'est pas premièrement pour un ministère, c'est pour une relation. Ce n'est pas pour une fonction, c'est pour une relation avec lui. Et il dit, je lui ai donné pour qu'il me craigne, pour qu'il me révère. C'est ça que ça veut dire. Donc Dieu accorde la vie et la paix dans ce but-là. C'est la première chose qu'il souligne. Il ne parle pas de sacrifice à faire, mais il parle de relation vraiment à entretenir. Offrir des sacrifices, ça faisait partie de la mission du sacrificateur. Aussi bien qu'en signer d'ailleurs. Et c'était son ministère public. Mais la finalité vraiment du don de Dieu, c'est pas d'offrir, ça n'est pas d'enseigner, mais c'est d'honorer. Et quelqu'un disait, Dieu ne sauve personne pour qu'il devienne un prédicateur, mais pour qu'il soit un adorateur. Et il nous utilise, bien sûr, dans sa grâce, pour des fonctions particulières. Mais ce qu'il recherche avant tout, comme il dit à la femme samaritaine, ce sont de tels adorateurs que Dieu recherche, des êtres qu'il adore en esprit et en vérité. Dieu dit, est-ce que je mange la chair des taureaux, des boucs, etc. Il dit, je ne mange pas ça. Je n'ai pas besoin de ça. Il dit, si j'ai faim, je ne te le dirai même pas. Parce que tout m'appartient. Mais il te sauve pour que tu puisses avoir une profonde relation avec lui, une vraie relation avec lui. Et prendre conscience de cela est très important. On attache beaucoup d'importance au ministère public. Dès le matin, on est versé de notre ministère public. Et la vie publique nous tend les bras le matin, au réveil. Elle est déjà réveillée avant nous-mêmes. Une distribution à faire par-ci, des répétitions par-là, une étude biblique à préparer, un sermon ici, un sermon là-bas, des articles à rédiger, des tonnes de mails à envoyer. Et des fois, on est versé tout de suite dans cela. Et parce qu'il faut le faire. C'est mon ministère. Il faut, sinon, le travail ne se fera pas. Et on mesure même le succès spirituel du ministère à l'érudition, à l'éloquence, à l'engagement, au nombre de livres écrits, par exemple. Ah ouais, il est très prolifique, cet auteur, il écrit. Ah ouais, c'est un homme de Dieu. Alors là, du tonnerre. Hein. C'est peut-être vrai, c'est pas que c'est faux. Mais c'est comme ça que nous mesurons. Mais l'instrument de mesure de Dieu, il est tout autre. On mesure le succès par l'extérieur, Dieu le mesure par l'intérieur. L'instrument de mesure de Dieu, c'est la piété privée. C'est la piété privée. La relation intime, la révérence. J'ai trouvé cette citation dans le livre de Don Carson qui parlait de la prière renouvelée, plusieurs livres que vous avez reçus, ceux qui ont été baptisés, de Robert Murray McShane. Vous connaissez, il y en a qui lisent, qui suivent le plan de lecture. Donc c'était un prédicateur en Écosse, début du 19e siècle. Il dit, ce qu'un homme est quand il est seul à genoux devant Dieu, c'est ce qu'il est réellement, ni plus ni moins. Autrement dit, le plus haut niveau que l'on a, c'est celui que l'on a quand on est tout seul dans la relation, la prière, dans la révérence avec Dieu. C'est ça que Dieu regarde. C'est ça que Dieu regarde. Alors ne soyons pas à la recherche de grands personnages par-ci, par-là. Hein, c'est important d'aller là où il y a des gens qui ont à qui Dieu a donné des dons spécifiques pour des choses. C'est pas, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais dans notre, n'établissons pas des jauges pour mesurer dans ce sens-là. Ce n'est pas ainsi que Dieu mesure. L'approbation de Dieu est celle qui compte. C'est Dieu qui dit, Lévi m'a révéré, il tremblait devant moi. C'est personne du peuple qui a dit ça. C'est Dieu qui le dit. Lui seul peut-être le savait. Il savait qu'il était dans l'accueil. Et lui, il peut dire, il peut rendre témoignage. Et quand Dieu rend témoignage de cette manière-là, c'est un témoignage véritable. La planète entière peut se lever pour vous applaudir, hein, et dire, ah, quel homme, quelle femme. Et en même temps, Dieu peut dire, tu ne m'honores pas. Tu ne trembles pas devant moi. Tu n'as pas à cœur de glorifier mon nom. Alors, je maudirai ta bénédiction. Il peut le faire. Parce que ce n'est pas par l'extérieur, par le ministère, qu'on mesure la valeur. Comment se manifeste cette révérence chez Lévi? Regardez, il dit, il m'a révéré et il a tremblé devant mon nom. Il y a un saint tremblement devant son nom. Le contraste est flagrant avec les sacrificateurs à qui Dieu s'adresse. Hein, les sacrificateurs du temps de Malachie. Il méprisait son nom. Chapitre 1, verset 6, chapitre 1, verset 11, chapitre 1, verset 12, Dieu souligne le fait que ses sacrificateurs méprisaient son nom. Et ici, il dit, Lévi, lui, il tremble. Ça veut dire qu'il est, c'est un mot qui veut dire le brisement, l'épouvante, même la terreur. Et on s'approche bien souvent de Dieu avec légèreté. Et c'est ça que Dieu met en évidence aussi. Ces sacrificateurs sont légers, arrogants et légers dans leur manière de s'approcher de Dieu. Ils oublient qu'ils s'approchent du Dieu saint. Dans Esdras, il était question, lorsque le peuple, Esdras parlait au peuple de son péché, il était question de conversion. La Bible dit qu'auprès de, Esdras dit dans Esdras 9, verset 4, « Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël. » Dieu est un Dieu saint. C'est pas dire qu'on a une peur. C'est pas dans ce sens. Mais il y a on doit être conscient qu'on est devant un Dieu saint. Et qu'on ne peut pas s'approcher de lui de n'importe quelle manière. Et quand on ne peut pas s'approcher de quelqu'un de n'importe quelle manière, vous savez, on ne sait pas toujours trop ce qu'il faut faire. Et on est dans une crainte. Hein. Si vous allez dans une grande maison, c'est pas, peut-être vous êtes invité dans un grand restaurant X étoile, hein, je sais plus, alors que vous avez toujours mangé au McDo. J'ai rien contre le McDo, hein. Mais bon. Et puis, on vous invite dans un super restaurant où il y a des gens qui sont vraiment bien tirés en quatre épingles et puis il y a des manières. Il faut connaître les bonnes manières. Vous arrivez là et vous avez peur de faire tâche, hein. Et vous savez pas comment vous conduire, vous regardez à droite, vous avez une espèce de crainte, une espèce de... Parce que vous, c'est pas que vous avez peur des gens, mais vous ne voulez pas mal faire, vous ne voulez pas gâcher cette atmosphère d'élégance et de finesse. Hein. Et quand on s'approche de Dieu, malheureusement, on oublie qu'on est devant le Dieu saint. On s'approche, on dit, oh ben Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de grâce. Une fois, quelqu'un qui avait une vie dans le péché me dit, je sais que je vis dans le péché. Mais heureusement que Dieu est un Dieu de grâce. Je dis oui, mais la grâce de Dieu nous enseigne. Quoi? Elle nous enseigne renoncer à l'impiété et à vivre dans la piété. Et donc on tire la grâce de Dieu, hop, comme un parapluie qu'on met sur la tête, et puis on peut vivre dans le péché tranquillement. Parce que Dieu est amour et parce que c'est un Dieu de grâce et de miséricorde. Absolument pas. Absolument pas. On le voit bien ici. Hein. Donc il dit, Lévi, il tremblait lui. Quand il s'approchait de moi, il avait un saint respect. Il savait qu'il était dans la présence du Dieu trois fois saint. Et je crois qu'on doit réclamer à Dieu de nous mettre à cœur cela, de nous aider à prendre conscience de sa grandeur, de sa majesté, de sa sainteté, afin que nous ne nous approchions pas de lui de n'importe quelle manière. Et puis, deuxième manière par laquelle Lévi révérait Dieu, c'est dans sa marche intime avec Dieu. Le verset dit ici, il marchait avec moi, dans la paix et dans la droiture. Un peu comme Enoch qui avait marché un peu avec Dieu. Donc ce que Dieu cherche, c'est un cœur qui le révère. Troisièmement, l'ordre de Dieu pour ses sacrificateurs, c'est aussi le devoir d'une bénéfique influence. Il veut qu'ils aient une bonne influence sur le peuple. Il est de la responsabilité du sacrificateur d'avoir une influence bonne sur le peuple. Et Dieu établit ici, je crois, un contraste, hein, il établit cette vérité-là par un contraste entre l'impact de la conduite de Lévi et l'impact de la conduite des sacrificateurs du temps de Malachie. Regardez le verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il a détourné, la fin du verset 6, du mal, beaucoup d'hommes. Et puis verset 8, mais vous, d'accord, à la fin du verset 8, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Il a détourné beaucoup du mal, et d'autres textes disent de l'iniquité ou du péché. Il dit, mais vous avez fait de la loi une occasion de chute. Vous les avez fait plonger. Et Dieu les rend quelque part responsables de cela. Donc Dieu montre ici que le sacrificateur doit être conscient de l'influence qu'il exerce sur les autres. Il doit être conscient de l'influence qu'il exerce sur les autres. Le peuple, bien sûr, était responsable d'avoir choisi des bêtes chétives, des bêtes malades pour l'offrir. Mais le sacrificateur aurait dû exercer sa connaissance de la loi pour dire au peuple, cette bête, elle est inapte. Tu ne peux pas l'offrir. Et il ne l'a pas fait. Et en faisant cela, il a influencé le peuple à ne point respecter la loi de Dieu et à ne point respecter Dieu. Et il cause la chute du peuple. Qu'on le veuille ou non, on exerce une certaine influence sur les autres, et ce d'autant plus qu'on occupe une position spécifique. C'est très important à noter. C'est pour cela que Dieu dit qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, parce qu'ils doivent savoir que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Pourquoi ils seront jugés plus sévèrement? Parce qu'ils ont une responsabilité, ils peuvent entraîner dans un sens ou dans un autre sens. Et quand on occupe une position, parfois d'enseignement ou même dans le monde, hein, hiérarchique par rapport à d'autres, on a une responsabilité et on a une grande influence sur les autres, qu'on le veuille ou non. Et l'influence, elle est ou positive ou négative. Dans Galates chapitre 2, vous vous rappelez, l'apôtre Paul parle de Pierre et il dit qu'il a dû reprendre l'apôtre Pierre. Parce que Pierre avait une conduite répréhensible. Il dit que, voilà, il était à Antioche, il mangeait avec les païens, et puis quand il a vu des gens qui venaient de Jérusalem, ah, il a eu peur de ces juifs qui insistaient sur la circoncision, et donc il s'est retiré subrepticement, là, il s'est mis un peu de côté, et Paul lui dit, non, on ne peut pas avoir une telle attitude. Et ce que Paul dit est assez intéressant, parce qu'il dit ceci en Galates 2:13, il insiste sur le fait que la conduite de Pierre a eu une influence sur les autres. Et il dit ici au chapitre 2, verset 13, « Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation. » Voilà. Et puis il dit, « En sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. » Il dit ici que Pierre a, par sa position d'apôtre, il a entraîné dans son incohérence beaucoup de juifs, jusqu'à même Barnabas. Et Paul dit, j'étais obligé de le reprendre à cause de cela. Vous voyez, la conduite de quelqu'un qui est dans une position particulière a une grande influence aussi sur les autres. Et il faut accepter que nous sommes influençables, que nous sommes influencés, et que bien souvent nous influençons aussi les autres. Et la position de pasteur, dans cette position, on a une influence sur les autres. Dans la position de moniteur dans une classe, on a une influence sur les autres. Dans la position de parent, on a une influence aussi sur les autres. Dans la position d'adulte et de grand, on a une influence sur les plus jeunes. Et il faut être conscient de cela. Ici, il est dit que Lévi, il a détourné du mal beaucoup d'hommes, une influence positive. Par contre, les sacrificateurs du temps de Malachie, ils ont fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs, une influence négative. Et Dieu relie ces deux influences à la relation que ces deux catégories entretenaient avec lui. Deuxièmement, le vrai sacrificateur doit donc s'appliquer à ce que cette influence soit bénéfique. L'influence existe, qu'il le veuille ou non. Il doit donc s'appliquer à ce que l'influence soit bénéfique. Et l'exemple de Lévi est donné pour cela. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Notre texte dit, il a détourné de l'iniquité ou du péché. Donc une influence bénéfique, c'est une influence qui conduit les hommes à se détourner de Dieu. C'est une influence qui conduit au salut. Et c'est le but de tout ministère, de conduire les gens au salut, à se détourner du mal. C'est le but du ministère du sacrificateur. La mission que Jésus avait laissée à ses disciples, c'était « Faites de toutes les nations des disciples ». C'est-à-dire, vous, c'est des païens que vous aidez à se tourner vers l'Évangile. L'apôtre Paul, c'est ainsi qu'il considérait son ministère. Écoutez ce qu'il dit en Romains chapitre 15, verset 16. Il dit « Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce de Dieu qui m'a été faite, écoutez bien cela, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'Évangile, c'est le sacrificateur qui parle là ici, hein, du divin service de l'Évangile, afin que les païens lui soient une offrande agréable étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Les païens sont une offrande. C'est-à-dire que le chrétien, l'apôtre Paul dit, mon ministère, c'est d'être un sacrificateur qui n'offre pas des animaux à Dieu, mais des païens à Dieu. Et ils sont sanctifiés par l'Esprit de Dieu. C'est son offrande. Et cette offrande, il dit qu'elle est agréable à Dieu. Hein. Il le dit ici. Hein. Encore une fois, vous voyez, quand là, il parle d'offrande, il y a encore le qualificatif d'agréable à Dieu. Et c'est cela le ministère de chacun, lorsque nous allons évangéliser, lorsque nous prêchons, hein, lorsque nous prions pour ceux qui ne connaissent pas Christ, eh bien, c'est que ces personnes se détournent du mal et reçoivent Christ. Ou même lorsque nous prions pour d'autres chrétiens, peut-être qu'ils vivent des situations difficiles, c'est pour qu'ils se rapprochent davantage de Christ. Et nous remplissons ainsi notre sacerdoce, notre ministère de sacrificateur. Quels sont, je termine avec ça, les ingrédients donc d'une influence bénéfique? Eh bien, d'abord, la vie personnelle. Parce qu'on voit ici que Dieu parle de cette vie des sacrificateurs de Lévi et de l'influence de cette vie sur le peuple. Ça a aidé le peuple à se détourner du mal. Donc, le manque de piété et de révérence des sacrificateurs du temps de Malachie, c'était l'inverse. Et la Bible insiste bien sur cela. Pour les pasteurs, par exemple, il dit « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais comme étant les modèles du troupeau. » C'est un modèle de vie qu'il faut donner. Donc, un ingrédient, d'accord, qui peut conduire à cette bonne influence bénéfique, qui tend vers le salut, c'est une vie personnelle, le fait d'être un modèle pour les autres. L'apôtre Paul dit la même chose au jeune Timothée. Il dit que personne ne te méprise, ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Donc, on participe à cette influence bénéfique par la qualité de la piété, la qualité de la vie. Et puis deuxièmement, par la fidélité à l'enseignement de la vérité de Dieu. Je pense que le texte insiste vraiment là-dessus ici. Il dit, la loi, verset 6, la loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne se trouvait point sur ses lèvres. Il dit, car les lèvres, verset 7, du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche que l'on demande la loi parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. La loi de la vérité était sur sa bouche. La mission du prêtre n'était pas seulement d'offrir des sacrifices, mais c'était aussi d'enseigner le peuple. Et vous pouvez voir ça dans Lévitique 10, 8 à 11, par exemple. Si l'apôtre Malachie insiste aussi ici là-dessus. Ces sacrificateurs enseignaient certainement, mais pas la vérité. Et donc là, ce qui est important, c'est de voir qu'ils doivent enseigner la vérité, la fidélité à la vérité de Dieu, de l'enseignement de la parole de Dieu. Ils ne proféraient peut-être pas verbalement des mensonges. Probablement pas. Mais peut-être qu'il ne parlait simplement pas. Il suffit des fois d'être simplement silencieux, de ne pas dénoncer le mal. Et donc, la Bible dit qu'ils avaient égard à l'apparence, regardez au verset 9, ils avaient égard à la fin du verset 9, à l'apparence des personnes quand ils interprétaient la loi. Et l'apparence des gens avait un poids important dans les instructions qu'ils donnaient, dans les décisions qu'ils rendaient dans les affaires difficiles. Et lorsque la prédication de la parole s'adapte, et qu'elle est modelée par l'évolution de la société ou des lois sociétales qui sont votées, elle a égard à l'apparence des personnes. Lorsqu'on n'ose plus dire que l'homosexualité est un péché condamné par Dieu, conformément à la parole de Dieu, on se conforme et on prêche un évangile qui tient, qui prend égard aux personnes. Lorsqu'on ne dit pas que vivre, avoir des relations sexuelles hors mariage est un péché, on se conforme aux gens et on prêche en ayant égard à l'apparence des personnes. Chaque fois qu'on ne dénonce pas le péché, clairement tel que la parole de Dieu le fait, on a égard à l'apparence des personnes. Parfois, certains milieux, on dit, bon, il faut faire attention à tel type de personne, on ne va pas trop parler de cela, etc. Et on va diluer un peu la parole de Dieu. Non, elle doit être prêchée dans la vérité. La parole, la loi de la vérité était dans sa bouche, ne s'est point trouvée d'iniquité sur ses lèvres. Il dit parce que la bouche du sacrificateur doit garder la science. Et c'est à lui qu'on va venir demander, parce qu'il est un envoyé de Dieu. Maintenant, les gens vont voir beaucoup de psychologues, de ceci, de cela. Et on dit, bon, les pasteurs, tout ça, oui, c'est bien, c'est la Bible, mais bon, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. La parole de Dieu est toute suffisante. C'est elle. Les Lévites devaient juger les affaires de meurtre, les viols, tout. Ils devaient donner une instruction sur tout. Ils n'avaient pas tout ça. Hein. Il nous faut apprendre à faire confiance à la parole de Dieu. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, il disait, ouais, vous allez voir les gens du monde pour régler les affaires entre vous. Là, il dit, c'est pas normal ça. C'est pas normal, cette attitude. Okay. L'apôtre Paul disait à Timothée que la proclamation selon la vérité produit une influence à salut. 1 Timothée 4, verset 16, je lis ceci. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ça veut dire que quand on veille sur soi, voilà. Je trouve que ce verset, il est magnifique parce que il résume à lui tout seul ce que Malachie dit ici. Il y a à la fois, dans ce verset, la relation veille sur toi-même. Il y a cette relation avec Dieu, hein. Il doit veiller sur sa propre piété. Il doit veiller sur son enseignement, en fait, que la parole de la vérité doit être sur ses lèvres. Il doit persévérer dans ces choses. Et s'il le fait, il aide les gens à se détourner du mal. Il se préserve lui-même. Donc, il y a la question aussi de la menace, parce qu'on ne sauve pas quelqu'un qui n'est pas en danger. On ne sauve pas s'il n'y a pas de menace. Donc, il fait les questions d'une menace. Et il dit, tu te sauves toi-même et aussi tu sauves les autres. Quand tu veilles sur toi, et que tu prêches fidèlement la vérité de Dieu. Tu as une vie de piété, et tu prêches avec vérité toute la parole de Dieu. Conclusion, chers frères et sœurs, les sacrificateurs que Dieu demande sont ceux qui ont un cœur pour lui. Les chrétiens, nous sommes des sacrificateurs, et Dieu nous demande la même chose, que nous ayons un cœur pour l'honneur de son nom. Je voudrais vous faire remarquer que pour lui être agréable et offrir des sacrifices qui lui sont agréables, il faut avoir reçu la vie et la paix. Le texte dit ici, je lui ai accordé la vie et la paix pour qu'il me craigne. Et la vie et la paix s'obtiennent par Jésus-Christ. Jésus-Christ donne la vie éternelle et la paix parfaite. Il faut venir à lui, se repentir, confesser ses péchés et croire en lui. Aujourd'hui est un jour de salut. Si vous entendez sa voix, eh bien, la Bible dit que vous ne devez pas endurcir votre cœur. Je voudrais faire remarquer qu'on ne plaisante pas avec Dieu, ni hier, ni aujourd'hui. Il est le Dieu qui ne change pas dans ses attributs, ni dans ses menaces. Et ces menaces sont à prendre au sérieux hier et aussi aujourd'hui. aussi que c'est Dieu qui dicte l'adoration qui lui convient. Il n'a jamais été question pour l'homme de décider comment il peut adorer Dieu. C'est toujours Dieu qui dicte. Il ne laisse pas cette initiative à l'homme. Il dit, voilà comment vous devez faire. Voilà comment votre cœur doit être devant moi. Et c'est à nous de nous conformer. C'est jamais à lui de se conformer à nos desiderata. Et en tant que sacrificateurs, nous avons une mission aussi d'intercession, les uns pour les autres. Mais je crois aussi une véritable mission d'intercession pour nos conducteurs. Parce que, on l'a vu ici, Dieu s'adresse aux sacrificateurs et nous devons prier pour que la vérité de la parole soit dans leur bouche et pour que Dieu les guide et qu'ils aient une véritable vie de piété. Ne priez pas pour que votre pasteur soit un internationalement reconnu, etc. Ça n'a pas d'intérêt. Priez pour lui, pour qu'il puisse se placer devant Dieu et avoir une vie véritable de piété et de révérence personnelle. Ça, c'est important. La vie de l'Église en dépend, le bien de l'Église en dépend. Priez pour vos pasteurs dans ce sens. Et prions aussi les uns pour les autres. Dieu dit, j'honorerai ceux qui m'honorent, mais je mépriserai ceux qui me méprisent. Et dans le passage qu'on a au verset 9, il dit, moi je vous rendrai méprisable et vil aux yeux des autres, parce que vous ne m'avez pas écouté. Que le Seigneur nous aide à mettre sa parole en pratique. Il exprime ici sa miséricorde, mais dans sa sainte colère, pour que nous puissions nous détourner du mal et ne pas mépriser son nom. Qu'il nous aide et par son esprit à vivre d'une manière qui lui plaise et qui lui soit agréable. Prions. Notre Dieu, nous te remercions encore pour ta grâce envers nous. Merci pour ta parole et que ton esprit nous aide. Nous voyons combien nous sommes loin de ce que tu exiges de nous dans ta sainteté. Mais nous savons que tu veux nous aider par ton esprit à nous approcher réellement de toi. Montre-nous, Seigneur, comment nous pouvons t'honorer chaque jour dans notre vie. Montre-nous, comme tu as montré à ces sacrificateurs, quel est notre échec, afin que nous puissions nous conformer à ta parole. Donne-nous d'écouter et d'avoir à cœur la gloire de ton nom. Seigneur, aide-nous. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nos cœurs, comme nous l'avons entendu ce matin, sont pleins de mauvaises pensées, de choses mauvaises. Mais tu veux nous purifier. Et Seigneur, nous te prions de nous aider à marcher chaque jour avec toi, en nous conformant fidèlement à ta parole. Je prie que tu sauves aujourd'hui ceux qui ne te connaissent pas, que tu affermisses tes enfants pour la gloire de ton nom.